Le shooting de
Radio France Internationale.
Accent du monde.
Raphaël Delvolvé.
Bienvenue à tous dans Accent du Monde. Comme toutes les semaines, l'actualité vue par les rédactions en langue étrangère d'RFI. Et pour cette dernière émission de l'année, une première, la participation de la rédaction en Haoussa. Nous sommes en ligne avec Lagos au Nigeria où se trouve Abdulkarim Ibrahim, rédacteur en chef adjoint. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, salut Aiki.
Vassile Damian, chef du service en langue roumaine, est également avec nous.
Bonasera.
Et puis Nasser Etemadi pour la rédaction en langue persane. Merci à tous d'être là avant de basculer en 2024. Chacun a choisi deux actualités marquantes de l'année écoulée et honneur au nouveau de la rédaction en Haoussa. Avant de commencer, peut-être vais-je vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, bientôt 17 ans d'existence pour le bureau des RFI en Haoussa à Lagos au Nigeria. Votre rédaction, c'est une quinzaine de collaborateurs, une vingtaine de correspondants. Vous êtes très très écoutés dans le nord du Nigeria, dans le nord du Cameroun et du Ghana, mais aussi au Niger où malgré la récente coupure des ondes FM, vous êtes toujours très suivis en ondes courtes et sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à votre édition de 17h à retrouver tous les jours sur Facebook Live. Abdulkarim Ibrahim, vous avez choisi de revenir sur le coup d'État de l'été dernier au Niger. Vous étiez particulièrement concerné par cette crise. Vous êtes d'origine nigérienne. Quel souvenir avez-vous de cette période durant laquelle le Niger et le Nigeria où vous travaillez ont retenu leur souffle ?
Merci. C'était un moment très difficile. C'était la première fois que l'on avait vécu une alternance démocratique au Niger et une période sans coup d'État pendant plus de 12 ans. Donc, ça a été une vraie déception. Et puis, la menace n'ont pas tardé à arriver. Quelques jours plus tard, le chef d'État de la CEDEAO se sont réunis à Abuja, au Nigeria, en urgence. Oui, ici, c'est Bola Tinubu qui a ordonné le respect de l'ordre constitutionnel que le président Mohamed Bazoum reprenne ses fonctions sous menace d'intervention militaire. Ils ont également voté des sanctions très lourdes avec la fermeture des frontières. Ça nous a impacté directement car du jour au lendemain, les journalistes nigériens de notre rédaction n'ont plus pu rentrer chez eux et nous pensions vraiment qu'il y aurait la guerre. Nous avons tous eu peur pour nos familles.
Et du côté du Nigeria, comment avez-vous vécu cette crise ?
Au Nigeria, la guerre a fait peur aussi. Le président Tinubu venait d'arriver au pouvoir dans un contexte de crise économique et sociale. Son mandat a été contesté par l'opposition devant les tribunaux. La situation n'était pas du tout favorable pour entrer en guerre, surtout avec un pays voisin. Mais aujourd'hui, l'espoir est revenu avec la désignation du Togo comme médiateur. Et on ne pense plus à la guerre.
Par contre, la CEDEAO n'a pas levé ses sanctions. Elles sont très lourdes contre le Niger. Quelles sont les conséquences directes aujourd'hui pour les Nigériens ?
Certainement, les prix des produits de première nécessité ont explosé. Les riz, la farine, le sucre, l'huile. Parce que tout est importé en contrebande. La route via le Bénin est toujours fermée. Alors là, on se trouve à la frontière avec le Bénin. Un de nos correspondants est allé sur place il y a quelques semaines, 3 mois après le coup d'État. Cet homme explique que des centaines de camions remplis de marchandises étaient toujours stationnés de l'autre côté de la frontière. Maintenant, certains ont été déroutés vers le Togo et le Burkina, mais les routes sont très dangereuses. Un autre problème très grave, c'est la rupture des produits pharmaceutiques. On a diffusé un reportage récemment depuis Zender, la deuxième ville du pays, où notre correspondant explique que les gens se présentent aux pharmacies avec des ordonnances, mais il n'y a plus de médicaments. Conséquence de la suspension des transactions bancaires par l'IOMOA, l'institution financière sous-régionale. Donc la situation est critique. On a peu d'espoir de redynamiser l'économie en 2024.
Voilà, le coup d'État au Niger de l'été dernier et ses conséquences sur la région. Merci Abdoulkarim Ibrahim. Je reviens vers vous tout à l'heure pour votre second choix. Voyons maintenant le point de vue de la rédaction persane d'RFI. Nasser Etemadi, vous vous penchez sur ces dissensions rares entre le Hamas et les groupes paramilitaires iraniens en pleine guerre contre Israël à Gaza. Le groupe islamiste palestinien a catégoriquement démenti cette semaine des propos du porte-parole des gardiens de la révolution. Il avait affirmé que le massacre du 7 octobre avait été commis pour venger la mort de Qassem Soleimani, le charismatique chef des forces Quds, assassiné par l'armée américaine en 2020 à Bagdad, en Irak. Cette déclaration a fait un tollé, Nasser.
Et bien sûr, d'ailleurs, pour commencer, je vous invite d'écouter Ramzan Sharif, porte-parole des gardiens de la révolution. Voilà, en fait, il est en train de dire que l'attaque de 7 octobre par Hamas était la vengeance, en fait, de l'Iran pour la mort de Qassem Soleimani, assassiné il y a maintenant plus de presque 3 ans. Donc, la déclaration de porte-parole des gardiens de la révolution, ainsi que le démenti de Hamas, intervenait, il faudra rappeler également le contexte, au moment où se déroulaient à Téhéran les funérailles d'un autre et commandant de gardiens de la révolution, Razi Mousavi, est quasiment au même rang que Qassem Soleimani, et assassiné vraisemblablement par Israël au sud de Damas le 26 décembre dernier. Cela dit, le démenti de Hamas a été entendu 5 sur 5 à Téhéran, où non seulement le porte-parole des gardiens de la révolution de la Maison Sharif qu'on vient d'entendre a retiré son maladresse, mais aussi le commandant même des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a personnellement réitéré la position officielle de Téhéran, ce qui consiste à dire que le Hamas était le seul auteur de l'attaque du 7 octobre et le gouvernement iranien n'y était d'aucune manière impliqué.
Alors, que signifie cet échange ?
Or, pour aller vite, au moins deux choses. D'abord, le Hamas a voulu publiquement empêcher toute tentative de récupération ou d'instrumentalisation de l'organisation palestinienne à Téhéran, dont le message pouvait faire passer tout simplement le Hamas pour un groupe mercenaire aux ordres de l'Iran, prêt à sacrifier plus de 2 millions Gazaouis au profit de la guerre que mènent indirectement les gardiens de la révolution contre Israël par ces groupes paramilitaires interposés dans la région. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le démenti de Hamas et la réponse qui s'en est suivie de la part des gardiens de la révolution révèlent un certain malaise qui semble s'installer de plus en plus entre le Hamas et peut-être même d'autres groupes semblable, et le gouvernement iranien qui n'aura, comme on vient de le constater également de la bouche de Hossein Salami, ne rate pourtant aucune occasion pour affirmer qu'il n'était pour rien dans l'attaque de 7 octobre, malgré son soutien répété à l'action de Hamas. En effet, aux yeux du gouvernement iranien, plus la guerre actuelle à Gaza s'inscrit dans la durée, plus le gouvernement iranien risquerait par ses inactions ou l'opportunisme de voir dégrader ses relations avec ses proxys dans la région au risque d'être contraint d'arrêter de se cacher derrière ces groupes paramilitaires, qu'ils soient chiites ou sunnites, yéménites ou irakiens, libanais ou palestiniens, et donc de provoquer ou de s'engager dans un affrontement direct de grande envergure qu'il vaut pourtant éviter à tout prix.
Et ce n'est donc pas un hasard si le gouvernement iranien, tout en soutenant et en justifiant dès le départ l'action du Hamas, ne cesse de demander un cessez-le-feu avec effet immédiat à Gaza.
Exactement, mais le gouvernement iranien demande l'arrêt de la guerre à Gaza à sa manière, c'est-à-dire en poussant les Houthis yéménites à attaquer les navires commerciaux dans la mer Rouge, où le Hezbollah libanais a intensifié ses attaques contre Israël. Le but recherché du gouvernement iranien est en tout cas de passer ce message que la guerre à Gaza, si elle n'est pas arrêtée, risquerait de provoquer une guerre régionale, voire internationale, avec les retombées incalculable. Mais s'agissant du gouvernement iranien, de ses actions, les méthodes connues, le vrai risque finalement d'une guerre régionale, c'est peut-être les agissements du gouvernement islamique iranien lui-même. Quand on fait tout et surtout n'importe quoi pour éviter une guerre régionale qui peut se tourner immanquablement contre la République islamique, elle-même, on finit par l'avoir ou provoquer d'une manière ou d'une autre. Donc, le risque d'une guerre dans la région est en tout cas est très grand.
On est sur un fil, effectivement. C'était le premier choix de Nasser Etemadi pour la rédaction Persane d'RFI. Le premier choix de la rédaction en langue roumaine à présent. Vassile Damian, vous nous parlez ce soir de la réforme des retraites en France. Elle nous a longtemps occupés pendant les premiers mois de cette année. Vous avez d'ailleurs couvert de nombreuses manifestations parisiennes contre la réforme.
En effet, Raphaël, j'ai couvert 9 ou 10 des 13 manifestations parisiennes contre la réforme des retraites. C'est dire l'intérêt que nos auditeurs et internautes portaient à ce sujet. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, le sujet en soi. Il faut savoir qu'en Roumanie, l'âge légal de départ à la retraite se rapproche des 63 ans pour les femmes et il est déjà de 65 ans pour les hommes. Voir des millions de gens dans la rue contre un projet de réforme qui prévoit l'augmentation de l'âge de 62 à 64 en France paraît donc incongru pour beaucoup de Roumains. Incongru, ou tout du moins impossible de voir en Roumanie, est aussi le nombre de manifestants comptabilisés lors de ces manifestations parisiennes. Plus d'un million de personnes, plus précisément 1,3 million, selon la police, en mars, est inimaginable en Roumanie. Lors des grandes manifestations anticorruption qui ont lieu dans ce pays en 2017, il y a eu tout au plus 600 000 personnes dans toute la Roumanie, dont la moitié à Bucarest.
Et ce qui a également attiré l'attention de vos auditeurs et de vos internautes, Vassile, ce sont les violences policières.
Oui, car les Roumains, malheureusement, eux-mêmes ont été victimes de ces violences lors des diverses manifestations que je citais, chez eux donc. Mais voir ça, de tels actes, éborgnement, mutilation, etc., en France, patrie des droits de l'homme, n'est pas concevable pour les Roumains. Certes, on a parlé bien sûr sur nos antennes aussi des violences et dérapages à l'encontre des forces de l'ordre, mais ce qui a attiré le plus l'attention reste ces violences policières, notamment celles commises par les fameux Braves M, les brigades motorisées de la police. Ces violences, pas seulement à l'encontre des manifestants d'ailleurs, contre la réforme des retraites, mais aussi, n'oublions pas la mort du jeune Naël, ont été condamnées pas seulement par la Défenseure des droits de France, des droits de l'homme en France, mais aussi par les organismes internationaux comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Conseil de l'Europe ou l'association Amnesty International. Ce n'est pas pour rien qu'un Français sur deux disait avoir peur de manifester à cause des violences policières, selon un sondage publié en début d'année par nos confrères du Huffington Post.
Enfin, Vassile, vous avez détaillé dans vos émissions la façon dont cette réforme a finalement été adoptée.
Tout à fait. Le fameux article 49.3 de la Constitution, utilisé par la Première ministre Elisabeth Borne, depuis, n'oublions pas, elle l'a fait encore une bonne vingtaine de fois, a posé beaucoup de questions. Surtout que l'une des deux motions de censure déposées dans la foulée a failli passer à 9 voix. Cette façon de légiférer et de gouverner à l'aide d'artifices constitutionnels nous a permis d'évoquer la vie politique française en cas de majorité relative dans le Parlement. C'est un sujet qui intéresse les Roumains dans la mesure où, il ne faut pas oublier, ils sont gouvernés actuellement par une coalition hétéroclite gauche-droite avec un changement de Premier ministre et de gouvernement à mi-mandat.
Merci Vassile. Je vous redonne la parole dans quelques instants. Vous reviendrez sur l'événement de l'année en Roumanie. C'était il n'y a pas si longtemps. On voit ça dans quelques instants. Nous en venons donc maintenant à vos seconds choix. Nous retournons à Lagos, au Nigeria, pour évoquer celui d'Abdulkarim Ibrahim. Vous avez choisi la crise économique au Nigeria depuis juillet et la politique de réajustement du président Bola Tinubu, de grandes difficultés dans le pays. Le prix de l'essence a triplé du jour au lendemain. La monnaie, le Naira, s'effondre quotidiennement et l'inflation atteint des sommets. Une étude indique ainsi que plus de 70% de la population partirait du pays si elle le pouvait. Des centaines de milliers de personnes partent d'ailleurs pour l'Angleterre, le Canada, les États-Unis depuis l'été dernier. Parmi elles, des jeunes éduqués de la classe moyenne, des ingénieurs, des professeurs et beaucoup, beaucoup de médecins et de personnels soignants. Abdulkarim, est-ce qu'il existe des chiffres de ce brain drain, comme on dit en bon français, brain drain, je vais y arriver, assez massif, hein?
Bien sûr, l'association des médecins nigériens estime que 5 à 7 000 médecins ont quitté le pays ces cinq dernières années, sur un total d'environ 24 000 médecins. C'est un sur cinq. Alors, selon leurs derniers chiffres, le Nigeria compte un médecin pour 10 000 patients, alors que l'OMS recommande un médecin pour 600 patients. Vous imaginez, moins de 10% des besoins. Et le phénomène ne cesse de s'accélérer.
Comment expliquer ces départs de masse?
Il y a un appel d'air de certains pays, comme la Grande-Bretagne. Le pays a annoncé cette année qu'il aurait besoin de plus de 350 personnels soignants dans les 10 prochaines années. Il n'est pas difficile de convaincre les infirmières nigériennes ou les médecins. Un jeune médecin ici gagne 350 000 naira, ça fait environ 350 euros par mois, et ça, c'est quand les salaires sont payés. À cela s'ajoutent des conditions de travail très difficiles. Notre correspondant Mohamed Sani est allé dans un hôpital psychiatrique à Abuja. Là, vous écoutez notre correspondant Mohamed Sani Aboubakar. Il explique que quand il est entré dans le locaux de cet hôpital, il n'y avait pas d'électricité. Il a dû trouver son chemin avec la lumière de son portable, donc de son téléphone. C'était vendredi, il n'y avait pas de médecin sur place. Il a dû revenir le lundi. C'est ce qu'il a fait. Donc, vous entendez la médecin Ousseina Souleymane lui raconte qu'elle a peur parfois pour sa sécurité, car il n'y a pas de médicaments pour les patients agités. Elle-même veut partir à l'étranger.
Quelles sont les conséquences au jour le jour de ce déficit de personnel médical au Nigeria?
Déjà, très grande difficulté, pas d'eau courante, peu de matériel. Les taux de mortalité au Nigeria sont les plus élevés au monde pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes en couche.
To a gaskiya a halin da muke ciki wallahi abubuwan gaba ɗaya babu daɗi
zan je asibitin gwamnati kafin a yi booking ɗina a ce za a man aiki
sai na yi wa c'est une dame dans un des hôpitaux publics là on se trouve dans un hôpital public une femme a amené son frère qui vient d'avoir un accident mais il n'y a pas de médicaments les rendez-vous avec des spécialistes prennent des mois et des mois. Et ces départs sont donc un poids supplémentaire sur les autres médecins.
Alors que peut faire le gouvernement nigérian pour tenter de stopper, de freiner cette hémorragie?
Après plusieurs grèves cette année, le gouvernement avait promis d'améliorer les conditions de travail et les salaires des médecins, mais il n'y a rien eu. Le Parlement a aussi essayé d'intervenir. Ils ont discuté d'une loi qui obligerait les médecins à rester travailler au Nigeria pendant 5 ans, avant de pouvoir partir. Mais cette proposition rencontre beaucoup d'opposition.
Alors, à RFI à Oussa, vous suivez de près cette crise, mais pour cette fin d'année, vous avez décidé de la regarder de l'autre côté en regardant ceux qui ont fait le choix de rester coûte que coûte. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Quelles sont leurs motivations?
Pour beaucoup, quand même, le départ à l'étranger, ça reste compliqué pour des raisons familiales. Donc là, c'est un médecin à Kano, la principale ville du nord du Nigeria. Il y a aussi ce qui reste pour leurs patients. Par exemple, à Kano, on a rencontré le docteur Sani Garba, chef de service en chirurgie d'un hôpital public. Il a décidé de rester car il dit que les patients ont plus besoin de lui ici au Nigeria qu'à l'étranger. Par contre, elle demande des mesures d'urgence au gouvernement pour faire face à cette situation. Car ce qui est inquiétant, c'est que ce ne sont pas les médecins qui sont choisis pour partir, mais ce sont les meilleurs et les spécialistes.
Merci beaucoup Abdoulkarim Ibrahim, rédacteur en chef adjoint de la rédaction RFI en Aoussa. À Lagos, au Nigeria. Restez avec nous car il reste encore deux choix à écouter. Nous allons redonner la parole à Nasser Etemadi pour la rédaction en persan. Vous revenez sur cet avertissement du guide suprême iranien Ali Khamenei. Demande à ses troupes de ne pas négliger les prochaines élections législatives, c'est en février 2024, et l'élection de l'Assemblée des experts composée de 88 religieux pour 8 ans est chargée de désigner le successeur du guide lui-même. Il devra être remplacé vu son âge et sa maladie, un cancer de la prostate jusqu'alors maîtrisé.
Oui, bien sûr, et je vous invite également d'écouter Khamenei dans son intervention récemment. En fait, en gros, il dit que si on dissuade des gens de participer aux prochaines élections, ça sera pas au bénéfice du pays et cela crée l'anarchie et également la dictature. Cela ressemblerait, cela serait surréaliste, surtout de la part de quelqu'un qui a le pouvoir absolu depuis plus de 30 ans sans avoir une seule voix. Mais en tout état de cause, son appel à lui est très significatif. Le guide iranien a qualifié de néfaste envers le pays et son avenir toute tentative de dissuader les gens à se présenter aux urnes, mais est-ce pour autant, peut-on se demander, qu'il préconiserait l'organisation des élections, non pas libres, mais au moins inclusives, qui, en vue d'une participation importante des électeurs, permettrait aux franges dites modérées du gouvernement iranien d'y présenter leurs candidats. Force est de constater la réponse et non. Car d'ores et déjà, les instances supervisant ces élections ont disqualifié massivement les candidats considérés comme indésirables, avant de laisser au Conseil constitutionnel, sous l'ordre du guide suprême, le soin d'y apporter la touche finale, à savoir ne laisser se présenter aux élections que ceux qui sont liquéfiés, selon l'expression consacrée. Dans le principe de gouvernement islamique, le système Velayat-e-Fari, qui donne la suprématie absolue au clergé, en l'occurrence le guide lui-même, en la personne pour le moment d'Ali Khamenei. En effet, cela fait longtemps et le guide iranien le sait parfaitement, même si pour des raisons évidentes, il ne veut pas l'avouer, que la société civile iranienne, dans son écrasante majorité et au prix des soulèvements successifs, et bien entendu du sang versé sur les pavés de plusieurs centaines de manifestants au cours de ces dernières années, ne prête aucune attention à ce type d'appel et ne considère nullement les élections de la République islamique comme expression des volontés librement exprimées ou le moyen de pacifier les conflits divers et variés qui traversent le tissu social dans son ensemble. En fait, Ali Khamenei craint fortement que vous, des ultimes conséquences, des dernières élections législatives et présidentielles qui ont mis en place sous sa propre supervision une assemblée et un président plus que docile et liquéfié dans le système de Velayat-e-Fari, une partie importante d'adhérents du gouvernement islamique refuse de participer aux prochains élections, ce qui pourrait ramener le taux réel de participation au-dessous de 30% annoncé lors de la dernière élection présidentielle dont est issu l'actuel président iranien Ebrahim Raisi.
Pourquoi cette inquiétude, Nasser ?
Bon, à cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, l'aggravation des crises économiques, une pauvreté accrue, une hyperinflation non maîtrisable, qui, en supprimant la quasi-totalité de la classe moyenne iranienne, continue à polariser, à diviser la société entre, d'une part, une grande majorité désenchanté et de l'autre, un gouvernement devenu le concentré d'une infime minorité que l'opinion publique qualifie communément, publiquement, de corrompu et incompétent.
Les sources d'inquiétude du guide suprême iranien au sujet des élections à venir semblent en fait beaucoup plus profondes qu'on ne le croit.
Effectivement, et cela, nous le devons avant tout à la résistance héroïque des femmes iraniennes au cours de soulèvements mondialement connus sous l'appellation de « Femmes, vie, liberté » qui rappelle étrangement le grand devise d'ailleurs de la Révolution française « Liberté, égalité, fraternité » même s'il a été à son tour réprimé dans le sang. Le guide iranien sait parfaitement qu'à cause des dernières conséquences de ce soulèvement, une partie croissante de ces troupes, ce dont l'adhésion au principe de gouvernement islamique est rachetée et assurée par un système de distribution des rentes de plus en plus rare, est désormais convaincue de la vulnérabilité politique du guide et de son système, voire de risque de leur effondrement. C'est que les femmes iraniennes, et on peut y ajouter la jeunesse également, En dépit de la répression qu'elles ont subie, ce sont les seuls acteurs politiques qui ont réussi là où tous les autres acteurs de la société ont échoué dans leur tentative de défier l'arbitraire et la violence du gouvernement iranien, c'est-à-dire le voile obligatoire.
Merci beaucoup Nasser Etemadi de la rédaction en persan d'RFI. Nous terminons Action du Monde avec vous, Vassile Damian, avec l'événement de l'année en Roumanie, je l'ai dit tout à l'heure. Ça s'est passé hier, Vassile. Expliquez-nous, que s'est-il passé de si important pour les Roumains ?
Eh bien hier, la Roumanie, mais aussi la Bulgarie, car les deux pays sont liés dans cette démarche, a reçu enfin le feu vert pour adhérer, partiellement au moins, à l'espace européen de libre circulation. Au bout de 13 ans, la Roumanie va entrer dans Schengen. Nous avons un accord politique en ce sens, a écrit tout de suite sur Facebook le Premier ministre social-démocrate Marcel Ciolacu. Certes, cette adhésion, rêvée des Roumains depuis des années, se fera en deux étapes. D'abord, à partir de mars probablement, les Roumains pourront circuler librement par avion et par mer. Mais le gouvernement de Bucarest espère finaliser en 2024 les négociations pour adhérer aussi à la libre circulation par voie terrestre, ce qui fera seulement, à ce moment-là, de la Roumanie un membre à part entière de l'espace Schengen.
Et rappelons-le, Roumanie et Bulgarie sont membres de l'Union depuis 2007 et techniquement parlant, selon les différents rapports d'étape, les deux étaient prêts depuis des années pour adhérer aussi à Schengen. Hein.
Sauf, Raphaël, sauf que cette adhésion est très politique et politisée et a été le joujou des différents gouvernements et pays. L'Autriche, dernièrement, mais aussi les Pays-Bas et la France par le passé, avaient émis leur veto à l'entrée de ces deux pays. Cette adhésion, premier but politique fixé par les gouvernements roumains successifs de la dernière décennie, a été obtenu à l'arraché grâce au changement de position de l'Autriche. Jusqu'à récemment, c'était les Pays-Bas qui bloquaient cette adhésion, qui demandent l'unanimité des États membres de l'espace Schengen. Ensuite, c'est Vienne et son premier ministre de centre droit, Karl Nehammer, qui se sont opposés avec véhémence à cette option du fait que la Roumanie et la Bulgarie ne sécurisaient pas assez leurs frontières extérieures par là où arrivent les migrants qui rêvent de l'Union européenne. Début décembre, Vienne avait pourtant émis l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui Air Schengen, à savoir l'entrée donc dans l'espace Schengen en deux étapes. Ce qui a été fait donc, acté hier, après des ultimes tractations roumano-bulgaro-autrichiennes. Comme il était attendu, cette bonne nouvelle concernant l'adhésion du pays à l'espace de libre circulation Schengen, même partiellement, comme je le disais, n'a pas été saluée par toute la classe politique de Bucarest. En effet, l'année prochaine, 2024, est une année très chargée électoralement. Il y a 4 scrutins, dont des législatives et des présidentielles. Et le dossier Schengen est une occasion de dispute entre le pouvoir actuel et l'opposition. Écoutons, dans ce contexte, Dacian Cioloș, ancien Premier ministre roumain, ancien commissaire européen, actuellement député européen dans le groupe Renew Europe et donc dans l'opposition par rapport à l'actuel gouvernement roumain.
Ceea ce s-a întâmplat alaltă ieri și ieri, e din punctul meu de vedere irresponsabilitate.
Dacian Cioloș dit en substance que ce qui se passe est d'un point de vue politique irresponsable et infantile, car cela risque de compromettre des négociations qui sont déjà compliquées. En fait, Cioloș reproche à l'actuel gouvernement de crier victoire alors qu'il reste encore à négocier l'entrée dans Schengen par voie terrestre et que, en attendant, la Roumanie sera un membre de seconde zone. Pour la plupart de ses compatriotes, je pense toutefois que cette adhésion, même partielle, est considérée comme une victoire politique après tant d'années d'attente, ce qui peut apporter des voix au parti social-démocrate de l'actuel Premier ministre.
Et on a parlé de la bonne nouvelle politique pour les Roumains en cette année 2023 qui s'achève, mais la Roumanie a aussi eu le privilège et l'honneur en cette année d'accueillir la capitale européenne de la culture, la ville de Timișoara, a ainsi partagé ce titre avec deux autres villes européennes, l'une hongroise, l'autre grecque.
En effet, Vespremen, la hongroise, et Elefsina, la grecque, ont partagé le titre de capitale européenne de la culture avec la roumaine Timișoara. Cette dernière a accueilli plus de 1000 événements culturels durant cette année, pièces de théâtre, festivals de musique, expositions de peinture ou de sculpture. Tous les arts ont été largement représentés. Ne pouvons pas tous les passer en revue. Rappelons un seul événement, l'exposition Brâncuși, Brâncuși en français, ouverte à l'automne et visible encore un mois. C'est la plus grande exposition Brâncuși jamais organisée en dehors de Paris et la première en Roumanie, pays d'origine de l'artiste depuis un demi-siècle. Le centre Pompidou, là où se trouve la réplique de l'atelier du célèbre sculpteur, a largement contribué à la richesse de l'expo de Timișoara.
Merci Vassile Damian de la rédaction en roumain des RFI. Merci encore à nos amis de la rédaction en Aoussa qui étaient avec nous depuis Lagos au Nigeria aujourd'hui, en la personne d'Abdoul Karim Ibrahim. Et puis merci à vous, cher Nasser et Temadi, d'avoir également participé à ce nouveau numéro d'Accent du Monde. Tous les épisodes sont à retrouver sur RFI.fr.